Jean-Yves Labrousse, l'histoire d'un miraculé, épisode 2. Jean-Yves Labrousse, 15 ans, est le seul rescapé de sa famille assassinée une nuit d'hiver de l'année 1983 dans la petite commune de Saint-Martin-le-Neu, dans les Hauts-de-France. Un individu s'est introduit dans la maison pour s'en prendre à ses proches. Après avoir reçu plusieurs coups de couteau, l'adolescent est parvenu à se cacher. Il a reconnu la voix de l'ancien petit ami de sa grande sœur, Pascal Dolic. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Les gendarmes et les secours sont prévenus au beau milieu de la nuit des événements tragiques qui viennent de se dérouler à Saint-Martin-le-Neu. 6 personnes assassinées et une mort collatérale.
D'après ce que l'on sait, vers 2h ce matin, le voisin d'en face, Roland Bizet, téléphone à la police. Il a à peine le temps de dire ce qu'il a vu. Il tombe mort, le téléphone dans la main, victime d'une crise cardiaque.
Roland Bizet était agriculteur. Tiré du lit par du grabuge, il a regardé par la fenêtre et a aperçu 2 silhouettes courir dans la rue à quelques minutes d'intervalle. Il a eu le temps de voir qu'elles étaient couvertes de sang et en partie dévêtues. Son cœur n'a pas supporté le choc. Les véhicules de secours filent à vive allure dans les petites rues de la commune endormie. Gendarmes et pompiers investissent les lieux. Avant même de pénétrer chez les Labrousse, ils comprennent l'ampleur du drame. Les corps des grands-parents gisent au sol dans la rue, couverts de plaies par armes blanches. Puis, les gendarmes entrent dans le pavillon, d'où s'échappe encore une épaisse fumée. Ils sont saisis d'effroi. Une jeune recrue figure dans l'équipe. Première scène de crime pour ce gendarme. Des années plus tard, à la fin de sa carrière, il la décrira aux Parisiens comme une scène de carnage. Au rez-de-chaussée, Franciane, la mère de famille de 37 ans, gît aux côtés de son plus jeune fils Fabrice. Caroline est découverte dans la salle de bain. Jean-Jacques, le père, est mort dans son lit. Tous ont reçu des coups de couteau. Beaucoup. Les gendarmes ne tardent pas à mettre la main sur l'arme du crime. Un couteau à désosser de 15 cm sur lequel ils prélèvent une trace digitale. Au même moment, Pascal Dolic est retrouvé chez un voisin, prostré et ses vêtements couverts de sang. Au vu des premiers éléments, il est considéré comme le témoin numéro 1 et emmené au poste. Jean-Yves Labrousse, lui, a été secouru à temps. Il est conduit en urgence absolue à l'hôpital de Beauvais. Au petit matin, Saint-Martin-le-Neu se réveille, sonné. En quelques heures, la bourgade a été envahie par les reporters. Devant le pavillon des Labrousse, les gendarmes s'affairent à grands coups de balai brosse pour effacer les traces de sang, stigmates de cette nuit terrible. Les caméras de télévision filment une scène surréaliste. L'un des gendarmes sort de la propriété des Labrousse. Dans sa main gauche, il tient un sac plastique et un jean ensanglanté. Il dépose ses éléments dans le coffre. Quelques secondes plus tard, 2 collègues y ajoutent un râteau et un bout de tissu en partie calciné. Sur la scène de crime, les enquêteurs ont aussi retrouvé une carte d'identité, un chéquier et des chaussures. Les documents sont tous au nom de Pascal Dolic. De témoin numéro 1, le jeune homme est désormais le principal suspect. Dans la rue, des petits groupes se sont formés. Les voisins des Labrousse, horrifiés, ne comprennent pas ce qui a pu se passer au sein de cette famille sans histoire, implantée à Saint-Martin-le-Neu depuis plusieurs générations. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Franciane Labrousse, la mère de famille était issue d'une lignée d'agriculteurs. Elle travaillait aux Nouvelles Galeries de Beauvais, au rayon parfumerie, où elle tenait le stand bourgeois. Son mari, Jean-Jacques, était rentré comme ouvrier en sidérurgie chez Massey Ferguson dès l'adolescence. Implantée à Beauvais, l'usine fabrique des tracteurs depuis sa création, dans les années 60. Le jeune couple s'est installé dans le pavillon de Saint-Martin-le-Neu après leur mariage. Un étage, un jardinet, une maison simple et agréable. L'arrière de la propriété donne sur un bois. Dans le jardin, Franciane a planté des fleurs roses et rouges. Un grand prunier pourpre vient ajouter une autre touche de couleur à ce havre de paix. Jean-Jacques et Franciane ont 3 enfants, Caroline, Jean-Yves et Fabrice. Au quotidien, les Labrousse sont aidés par les parents de Franciane, qui habitent une jolie ferme à 40 mètres, et par la mère de Jean-Jacques, qui travaille à la papeterie de Saint-Martin-le-Neu. Le couple Labrousse adore ses enfants. Grâce au comité d'entreprise de Jean-Jacques, ils se rendent à tour de rôle en classe de neige. Fabrice et Jean-Yves sont très proches et passent beaucoup de temps ensemble. Parfois, ils quittent la maison en longeant le mur à 4 pattes pour échapper au regard de Franciane et aller s'amuser dans le bois. Ils grimpent dans les cabanes, construites avec des amis. Les anniversaires de Caroline et Fabrice, nés le même jour, mais à quelques années d'intervalle, sont l'occasion de grands repas de fête. Comme le nouvel an que Franciane prépare une semaine à l'avance pour réunir toute la famille chez elle. Les Labrousse mènent une existence paisible et simple. Caroline rencontre Pascal Dolic en novembre 1981, à l'occasion d'un mariage. Elle a 17 ans, c'est une jolie jeune fille blonde, joyeuse et heureuse. Pascal Dolic, 21 ans, a un CAP en charcuterie. Le jeune homme habite dans la région et finit par vivre une grande partie du temps chez les Labrousse. Cette cohabitation fait un peu jaser à Saint-Martin-le-Neu, car le jeune couple n'est pas marié. Mais Franciane et Jean-Jacques l'autorisent malgré les cancans. L'arrêt sur le côté, Pascal Dolic est bien mis et plutôt joli garçon du haut de son 1m85. Surtout, il est très amoureux de leur fille. Et ce n'est pas le dernier à plaisanter. Avec lui, les repas de famille sont joyeux. En mars 1983, après une période de chômage, il réussit à se faire embaucher comme apprenti chez Monsieur Thomas, le charcutier de Saint-Martin-le-Neu. Une bonne façon de se rapprocher un peu plus de Caroline. Mais au mois d'octobre, la jeune fille met fin à leur histoire qui dure depuis 2 ans. Pascal a beau insister auprès de Caroline, la jeune femme est sûre d'elle. Elle a maintenant 18 ans et un diplôme de sténodactylographie en poche. Elle souhaite prendre son envol. Pascal Dolic trouve sur le perron des Labrousse un sac avec ses affaires. Dès le matin du 6 octobre, journaliste et enquêteur s'intéresse de près à l'amoureux éconduit. Les premiers questionnent les riverains et le patron de Dolic sur son caractère et son attitude des derniers jours. Interrogé par Antenne 2, il répète qu'il n'avait pas à se plaindre de ce jeune homme sérieux, honnête et courageux. D'après le charcutier, Pascal Dolic avait la tête sur les épaules.
Je l'avais embauché depuis le mois de mars, il était au chômage avant. J'avais eu de très bons renseignements sur lui par un confrère qui est charcutier à Boissainlieu. C'est tout maintenant. Moi, son travail, j'avais pas m'en plaindre.
Et son comportement, vous n'aviez rien remarqué ?
Rien du tout. Rien du tout. Moi, il est parti hier au soir, comme d'habitude.
Au micro d'un journaliste de France 3 Picardie, en revanche, une femme qui connaît bien les Labrousse confirme que la séparation entre Caroline et Pascal était dure. Entre 2 sanglots, elle précise.
Ah oui, je sais que c'était très dur. Ça faisait plusieurs fois qu'il revenait, même au magasin, voir sa mère.
Après 12 heures de garde à vue, Pascal Dolic sort de son mutisme et avoue les 6 meurtres. Au départ, il voulait simplement enlever Caroline, explique-t-il aux enquêteurs. Face à son refus, il a perdu pied. Pour le reste, sa mémoire flanche. Il ne se souvient plus de l'enchaînement des choses. La chronologie qu'il livre ne concorde pas totalement avec les constatations effectuées sur place. Les enquêteurs ont encore beaucoup de points à éclaircir. L'audition du suspect est troublée par ce qui ressemble à des crises d'épilepsie. À plusieurs reprises, le corps de l'apprenti charcutier se crispe. Son regard fixe un point dans le vide et il retombe dans une sorte de mutisme. À l'hôpital de Beauvais, Jean-Yves Labrousse, le seul rescapé, se réveille après une lourde opération. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Un grand pansement lui barre le ventre et sa cuisse le fait souffrir. On l'a transporté aux urgences avec une entaille de 20 cm. Les chirurgiens ont dû lui retirer un morceau de foie. Mais la douleur n'est rien à côté de celle qu'il ressent quand on lui apprend la terrible nouvelle. Aux premières heures du 6 octobre, toute sa famille a été tuée. Son choc est incommensurable. Entendu par les gendarmes, Jean-Yves tâche de reprendre en détail la chronologie des faits et désigne Pascal Dolic comme l'auteur de la tuerie. Le 7 octobre 1983, moins de 48 heures après les événements, Pascal Dolic est renvoyé devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour assassinat et tentative d'assassinat. Un psychiatre doit l'examiner dans les plus brefs délais. Car la violence des crimes dont on l'accuse n'est pas anodine, comme le montrent rapidement les autopsies diligentées en urgence. En tout, le médecin légiste va relever 72 coups de couteau sur les victimes. Dès le lendemain du drame, un journaliste de France 3, Picardie, soulève la question qui sera longtemps au cœur de cette affaire.
Il a suffi d'une nuit, une famille décimée, un village bouleversé et peut-être une relance du débat sur l'article 64 du Code pénal. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
En 1983, c'est encore le Code pénal de 1810 qui est en vigueur. Et en matière d'irresponsabilité pénale, l'article 64 ne connaît pas la nuance. Si on estime l'accusé responsable de ses actes, il sera jugé. Mais si son état de démence est reconnu pendant l'instruction, alors il va bénéficier d'un non-lieu. Pour Pascal Dolic, les expertises vont se succéder et se contredire pendant près de 6 années. Et même si l'apprenti charcutier est finalement renvoyé devant les assises, la question de l'article 64 va demeurer au cœur des débats pendant toute la durée du procès. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette saison consacré à ce terrible assassinat. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.